Allez, c'est l'heure maintenant des Voix de l'Alma, l'actualité des libraires montalbanais. C'est toutes les semaines en compagnie de Jacques Griffaud. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Hugues Dedy, bonjour. Et Philippe Bernadou.
Bonjour.
Alors, bon, on va commencer tout de suite par La fin du monde. Voilà, un ouvrage gay.
Un ouvrage gay. C'est un roman qui se déroule autour de quatre adolescents, des presque adultes, des jeunes adultes. Alors on a François qui est parisien, il habite les beaux quartiers de la capitale, fréquente des établissements scolaires prestigieux. Il appartient à cette bonne bourgeoisie française, un peu catho par tradition, un peu réac aussi. Et puis il y a Hafsa, qui est une jeune musulmane, habitante du Caire, qui est une ex-petite terroriste intégriste qui a tenté de se faire sauter aux explosifs, mais qui n'a réussi qu'à s'arracher une main. Une martyre, donc, elle hait l'Occident, son arrogance, ses excès, mais elle se souvient avec nostalgie de son grand-père qui lui lisait le Coran comme un livre d'amour, d'union, de partage. Au fond, elle subit un embrigadement politique que ses souvenirs fragilisent énormément. Et puis, il y a Xian, un jeune chinois issu d'une famille de médecins qui a fait fortune en quelques années. En quelque sorte, il est l'enfant issu du miracle économique chinois, miracle tout en nuances car aucune forme de fortune n'a permis de sauver sa mère morte alors qu'il était petit, trop petit. Depuis, son père est une ombre, incapable d'apporter un amour paternel, ni même un amour maternel de substitution. La fortune ne peut rien non plus pour l'amour. Et puis enfin, dernier jeune, Jim, qui est un jeune américain, fils d'un sénateur. Alors lui, il n'a qu'une passion, qu'une motivation, qu'une obsession, presque une pathologie, intégrer les Seahawks, qui est l'équipe de football américain de Seattle. Voilà les quatre personnages, quatre jeunes, au profil relativement atypique dans les romans pour la jeunesse, quatre jeunes qui sont ni naïfs ni stupides. Ils viennent de quitter l'ensoleillement de l'enfance et abordent avec lucidité une mondialisation qui distend les frontières mais contracte les relations. Et c'est dans ce contexte que le hasard va faire converger leur parcours. Alors, quand les premières bombes atomiques explosent sur San Francisco, Los Angeles, San Diego, eh bien, les missiles américains ne tardent pas à pointer Pékin. François, Hafsa, Xiang et Jim savent désormais que le monde s'embrase, se désintègre. Et sans manichéisme ou sensibilité outrancière, sans sensiblerie, ce roman décrit la fin du monde, l'apocalypse nucléaire, tout simplement. Les territoires entiers rayés de la carte, les soulèvements populaires, les pillages, les missiles, les viols, les meurtres sauvages, les foules, la confusion, les enfants perdus, en un mot, le chaos. François, Hafsa, Xian et Jim tentent de rallier une base secrète au Groenland dont le père de Jim leur dit l'existence, mais quand les civilisations volent en éclats, vraiment, rien n'est simple. Et ce roman est passionnant, et contrairement à son titre, plein d'espoir. Et il montre encore une fois que la frontière entre le roman adulte et jeunesse est vraiment mince, très très mince. La fin du monde s'ouvre sur un second tome qui est à paraître et qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Donc, vu que le roman vient de paraître en livre de poche, pour 6 euros et quelques centimes, on peut s'offrir La fin du monde de Fabrice Collin en livre de poche. Un cadeau plein d'espoir pour Noël.
Merci, Hugues Dedy. C'est à vous de nous présenter un ouvrage sur Bourdelle, Philippe Bernadou.
Et oui, Rémi, enfin Bourdelle 20. Il y a quelques années qu'on attendait un livre complet sur la sculpture de Bourdelle. Il y a bien eu, depuis 4-5 ans, une dizaine de rééditions orchestrées par le musée Bourdelle de Paris, qui sont tout à fait valables et appréciables, mais qui ne concernaient que, si on peut dire, ses expressions annexes. Il y a eu la réédition de sa poésie, des cours qu'il a donnés, des cours théoriques qu'il donnait à ses élèves, des peintures, des illustrations de livres, mais pas de statues. Les voilà dans cet ouvrage donc qui paraît dans la collection L'Art en scène, dont le parti pris est de replacer l'artiste dans les lieux qui ont été les siens. Ici, principalement, l'atelier de Bourdelle à Paris, lieu de création, bien sûr, mais aussi d'échanges et de vie, puisqu'il y était avec sa famille. Cette collection Larensen est publiée par l'édition Alternative et apparemment sous le patronage de Gallimard, si l'on suit bien le détaillé du copyright. L'originalité de cet album, c'est qu'on confronte des photographies d'œuvres de Bourdelle, de statues donc, à des documents privés. Le premier est une photographie de Bourdelle à 8 ans, habillée on ne sait trop comment, façon gaucho peut-être. Et on va jusqu'à des photos qui sont issues du cartonnier secret, qui était bien planqué dans une armoire de l'atelier Bourdelle et qui est ressorti, où l'on cachait les photos des modèles féminins dans leur plus simple appareil. La progression du livre est classique, chronologique, de Montauban de 1961 au Vésiné en 1929, la vie d'Émile Bourdelle, car il s'appelait Émile, et il n'a adopté le prénom d'Antoine que très tard, pratiquement à la fin de sa vie, à la mort de son propre père et qui s'appelait Antoine. Il a d'abord signé Émile Antoine et puis Antoine tout seul. La vie donc de Bourdelle est déclinée à travers ses œuvres et ses rencontres. Et encore une fois, c'est la richesse exceptionnelle de l'iconographie qui emporte l'adhésion. L'auteur, c'est Stéphanie Cantarutti, qui est conservatrice au musée Bourdelle et plus particulièrement chargée du fonds photographique. Donc elle a pu piocher à loisir dans toute cette iconographie-là. Elle a été commissaire des expositions Isadora Duncan, Antoine Bourdelle que du dessin et Bourdelle intime, une spécialiste donc, aux éditions Alternative Collection Larensen.
Merci Philippe Bernadou. On passe à vos actualités. Il y a des expos en permanence à voir dans les librairies, dont une à la Femme Renard.
Oui, l'exposition qui a commencé la semaine dernière se poursuit à la Femme Renard. Elle est proposée par Blandine Rock dans le cadre de Expo Nomade. C'est une expo de sculpture.
D'accord, c'est une belle expo. Vous l'avez visitée
Ah oui, elle est superbe, oui.
Et puis, Hugues avec la bouquinerie Beau Livre, un partenariat très original à la Mémo, la médiathèque de Montauban, pour proposer les œuvres de Babar. Babar est un artiste vivant à Montauban. C'est ce qu'on appelle un artiste brut ou d'art populaire et qui propose des sculptures. C'est surtout un sculpteur qui montre un bonheur, un sens de la vie en coloré. Et c'est une exposition vraiment formidable qui donne beaucoup de profondeur, en fin de compte, à l'œuvre de Babar, qu'on a l'habitude de voir dans les vitrines, notamment chez Beau Livre. Mais bon, c'est toujours écrasé par des livres, par manque de place. Et là, le recul et l'espace donnent vraiment beaucoup de profondeur à son travail. Et c'est jusqu'au mois de mars. Donc on a le temps.
C'est à Beau Livre ou à la Mémo ?
À la Mémo. Voilà, dans la salle d'exposition au sous-sol.
Ben voilà, si on a fait le tour, on se donne rendez-vous à mardi prochain. Le podcast de l'émission sur cfmradio.fr.
Et on peut retrouver toutes les actualités des librairies ainsi que les coups de cœur sur librairiemontauban.fr, librairie s'écrivant au pluriel.
Oui, on a oublié de redonner effectivement les titres des ouvrages et leurs éditions. Alors, Philippe.
Alors, moi, j'ai parlé fin du monde de Fabrice Collin. C'est au livre de poche.
Et un beau livre consacré à Bourdelle, qui s'appelle Bourdelle tout court, de Stéphanie Cantarutti, aux éditions L'Art en scène.
Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.